Le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le gouvernement italien refuse de recevoir des leçons hypocrites de pays comme la France ayant préféré détourner la tête sur la question migratoire. Le ton est monté hier entre Paris et Rome alors que 630 migrants qui étaient bloqués en Méditerranée depuis ce week-end après le refus de l'Italie et de Malte de les accueillir sont désormais en route vers l'Espagne. Nous ferons le point sur cette crise dans un instant.
Et puis Donald Trump a accepté une invitation de Kim Jong-un pour se rendre à Pyongyang lors de leur sommet historique de Singapour. Premier signe de détente, la fin des manœuvres militaires américaines avec la Corée du Sud.
Il y a urgence à agir pour la protection de l'enfance. C'est une politique publique en danger, estime le Conseil économique, social et environnemental dans un rapport publié hier. Les anciens enfants placés représentent près d'un quart des sans-abri nés en France. La relance des privatisations, l'État s'apprête à céder des participations dans le groupe Aéroport de Paris et la Française des Jeux. Un moyen pour financer le fonds d'innovation et diminuer l'endettement. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, comment expliquer la baisse du QI dans les pays développés? Je ne sais pas si on comprendra si le QI a vraiment baissé, mais en tout cas, on posera la question à Barbara Demenex, qui est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Ils continuent d'être ballottés en Méditerranée, mais cette fois, ils ont un cap. Les 630 migrants secourus le week-end dernier par l'ONG SOS Méditerranée se dirigent depuis hier soir vers le port de Valence, en Espagne. 3-4 jours de mer pour arriver à destination, avec des candidats à l'exil, une centaine d'enfants et d'adolescents notamment, et 7 femmes enceintes réparties entre l'Aquarius, le bateau d'SOS Méditerranée, et 2 navires italiens réquisitionnés pour aider le bateau de l'ONG française surchargé et persona non grata en Italie et à Malte. Le début d'un nouveau voyage pour ces migrants partagé entre soulagement et lassitude, Delphine Evenou.
Depuis la zone où était bloqué l'Aquarius jusqu'à Valence, il y a 1500 km et avec une mauvaise météo et un navire en surcapacité, impossible pour le capitaine d'effectuer seul cette longue traversée. Dans l'après-midi, plus de 500 des 629 migrants ont finalement été transférés sur 2 autres navires venus en renfort, l'un de la marine italienne, l'autre des gardes-côtes italiens. Le transbordement, filmé par l'association SOS Méditerranée et relayé sur son compte Twitter, aura duré plusieurs heures avant que les 3 bateaux entament leur voyage dans la soirée. Sur l'Aquarius, malgré un nouveau ravitaillement, hier matin, les conditions de vie sont difficiles. Entre soulagement et dépit, Ludovic, marin sauveteur, salue le courage de ses passagers usés.
Moi, je tiens vraiment à remercier ces personnes parce qu'il y a eu de la tension, d'être tellement patient, parce que la distribution de nourriture, trouver une place pour dormir, aller aux toilettes, c'est tout un processus. Donc, je tiens vraiment à les remercier et c'est triste et dégueulasse de faire patienter des gens comme ça sur un bateau au milieu de nulle part sans savoir où aller après ce qui s'est passé. Au-delà d'où ils viennent, de l'enfer de la Libye, d'avoir ça après, encore un transfert, maintenant 3 jours de mer, et un petit peu d'amertume quand même.
Pendant ce temps à Valence, les autorités préparent l'arrivée des migrants pour les répartir dans les hôpitaux et les foyers. Hier soir, le président de la région espagnole, Ximo Puig, promettait d'accueillir l'Aquarius dans une grande étreinte de solidarité.
L'Aquarius et ses 630 migrants à son bord, déclencheur d'un bras de fer sans précédent dans l'Union européenne. Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien, chef de la Ligue, parti d'extrême droite, a refusé, je le disais, de laisser accoster le navire ce week-end. Pas question de transformer l'Italie en un énorme camp de réfugiés, a-t-il maintes fois expliqué, alors que son pays a accueilli 700 000 migrants depuis 2013. Pas question non plus de se laisser donner des leçons par la France. Si Emmanuel Macron est sorti de son silence hier pour dénoncer, je cite, le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie dans cette crise, Rome a immédiatement dénoncé l'hypocrisie de Paris. De quoi tendre les relations franco-italiennes avant la venue en France vendredi du nouveau chef du gouvernement populiste italien. Rencontre pour préparer le Conseil européen de la fin du mois, en particulier sur la question des migrants. Correspondance à Rome de Mathilde Imberti.
De sources françaises, l'entretien de vendredi est maintenu entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte à l'Élysée. Mais à Rome, le président du Conseil a fait savoir qu'il était très irrité et qu'il pourrait annuler le rendez-vous après les échanges d'hier entre les deux pays. Une escalade verbale amorcée de bon matin par le porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal, qui considère que la position italienne est à vomir. Poursuivi dans l'après-midi par Emmanuel Macron lui-même, selon qui l'Italie fait preuve de cynisme et irresponsabilité, en contraignant le navire Aquarius à naviguer jusqu'en Espagne. Rome a fini par publier en fin de journée une réponse cinglante. L'Italie ne peut pas accepter de leçons hypocrites de la part de pays qui ont toujours préféré détourner le regard, écrit la présidence du Conseil. Enfin, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, à la télévision italienne hier soir, abondait en ce sens.
Ça ne semble pas correct de dire que moi, le gouvernement, les Italiens, nous sommes à vomir, d'autant moins que depuis le 1er janvier, les Français, généreux, solidaires et sympathiques, ont repoussé plus de 10 000 migrants à la frontière franco-italienne, y compris des femmes, des enfants et des personnes handicapées.
Vendredi, le président Macron et l'Italien Conte devraient préparer ensemble le prochain Conseil européen sur la question migratoire si leur entrevue a bien lieu.
Mathilde Imberti à Rome pour France Culture. Emmanuel Macron critiqué en Italie, on l'entendait en France également. La présidente de la CIMADE a dénoncé hier soir le cynisme et l'embarras de la réponse du président de la République à l'Italie. Geneviève Jacques a évoqué un sentiment d'indignation et de honte partagé très largement. Et puis, dans un élan inhabituel au sein d'un parti d'ordinaire peu remuant, des députés En Marche sont sortis de leurs réserves hier pour demander aux autorités françaises d'accueillir les migrants de l'Aquarius. Sur la politique migratoire encore, en Allemagne, Angela Merkel a affronté de fortes turbulences hier au sein de son gouvernement sur l'accueil des réfugiés. La chancelière s'est opposée à une réforme de son ministre de l'Intérieur visant à restreindre l'accueil des migrants en Allemagne. Ce ministre, issu des rangs très conservateurs de la CSU, n'a cessé depuis 2 ans de dénoncer l'arrivée des réfugiés en Allemagne et il a reporté, sine die, la présentation d'un plan, présentation prévue hier, plan qui incluait le refoulement à la frontière de tout demandeur d'asile ne disposant pas de papier, une mesure qu'Angela Merkel considère comme une infraction aux droits et aux principes européens. Chacun accepte l'invitation de l'autre. Au lendemain d'un sommet historique à Singapour, Donald Trump indique qu'il est prêt à se rendre à Pyongyang et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un accepte lui de se rendre à Washington. Aucune date n'est fixée, mais déjà du concret dans le rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donald Trump a annoncé hier la fin des manœuvres militaires américaines conjointes avec la Corée du Sud. Des manœuvres que Donald Trump a qualifiées de très provocatrices envers le régime de Pyongyang. Une décision qui a surpris Séoul et le Pentagone, mais qui ravit déjà la Chine. La correspondance à Pékin de Dominique André.
En annonçant qu'il allait mettre fin aux manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud, Donald Trump a pris de court l'armée américaine qui n'a pas été avertie de cette décision et la Maison Bleue à Séoul qui demande des précisions. Mais il fait aussi une concession de taille à la Chine. L'an dernier, lorsque Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, défendait sa stratégie de la double suspension, suspension des essais nucléaires nord-coréens contre suspension des exercices militaires, beaucoup doutaient, y compris le chef de la diplomatie française, de l'efficacité de l'approche chinoise. Mais comme on dit en Chine, il faut savoir pêcher loin. Le régime de Pékin vient de marquer un point et rappelle à tous qu'il entend rester un acteur incontournable dans le jeu et qu'il ne se laissera pas déborder par le rapprochement spectaculaire de Donald Trump et Kim Jong-un, mis en scène brillamment à Singapour. Le message est valable aussi pour le jeune dirigeant nord-coréen qui est arrivé dans la ville-État à bord d'un avion d'Air China et qui a repris le même avion pour rentrer à Pyongyang. Un point commun à tous, le business. Toutes les parties voient d'un bon œil une prochaine ouverture économique de la Corée du Nord.
7h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Se dirige-t-on vers la fin de la grève à la SNCF?
Alors que la réforme ferroviaire doit être adoptée définitivement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, en ce 30e jour de grève en pointillé, les syndicats de cheminots se retrouvent eux cet après-midi pour réfléchir aux suites à donner à leur mouvement. L'adoption de la réforme au Parlement sonnera-t-elle donc le glas de l'unité syndicale? Hier, la CFDT cheminots appelait à suspendre la grève les 18 et 22 juin prochains. Jour d'épreuve du baccalauréat, les autres syndicats soupçonnent la CFDT de préparer sa sortie de grève. À suivre dans le journal de 7h30, un gros plan sur l'un des piliers de la réforme ferroviaire, l'ouverture du rail à la concurrence, possible à partir de décembre 2019 pour les régions qui le souhaitent, obligatoire après décembre 2023. Prévenir les ruptures dans les parcours de la protection en l'enfance, de l'enfance, c'est l'objectif du Conseil économique, social et environnemental qui dévoile ses pistes au gouvernement cet après-midi pour améliorer l'accompagnement des enfants placés. Ils représentent environ un quart des sans-abri nés en France, Clarence Rodriguez.
En clair, il s'agit d'identifier la situation de jeunes en difficulté multiple bénéficiant de l'aide sociale à l'enfance. Ce sont généralement des jeunes qui ont été exposés à des violences graves entraînant des perturbations dans leur développement, mais aussi ceux qui sont majeurs et qui sortent de la protection à l'enfance. La plupart d'entre eux se retrouvent à la rue, vulnérables, plongés dans la précarité. Selon Antoine Dulin, vice-président du Conseil économique, social et environnemental, 30% de ces jeunes qui ne bénéficient plus de l'aide sociale à l'enfance se retrouvent souvent sans domicile fixe.
On est face un peu à un scandale économique, financier et éducatif, parce que à 18 ans, aujourd'hui, il y a beaucoup de départements, parce que la protection de l'enfance est une compétence départementale, qui vont, par manque de moyens ou parfois de volonté politique, vont laisser les jeunes, alors qu'ils s'en sont occupés jusqu'à 18 ans, vont les laisser à eux-mêmes, dans une dynamique où, comme s'il n'y a plus de compétences obligatoires, ces jeunes, notamment pour une partie d'entre eux, vont être obligés soit de retourner dans leur famille, avec les risques que l'on peut comprendre, soit de devoir s'adresser à des services comme le 115 ou des centres d'hébergement d'urgence, et donc d'être plongés dans la précarité.
Pour Antoine Dulin, la situation de ces jeunes est toutefois paradoxale. Il leur est demandé plus d'autonomie qu'aux autres jeunes de leur âge, alors qu'elles ou ils ont moins de ressources. Parmi les préconisations exposées cet après-midi par le vice-président du CESE, il sera entre autres question de renforcer la prévention à l'école, dans les familles, dans les lieux où vivent ces jeunes, afin d'évaluer le plus tôt possible les situations de carence éducative et de maltraitance.
À la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, le collectif L'éthique sur l'étiquette interpelle les équipementiers Nike et Adidas sur leur politique envers leurs ouvriers, des ouvriers qui travaillent dans des conditions difficiles, Léa Mormin-Chauvac.
Le constat dressé par le collectif Éthique sur l'étiquette est sans appel. Les équipementiers leaders du marché, Nike et Adidas, dépensent de plus en plus d'argent pour rémunérer et parrainer des sportifs, tandis que les ouvriers perçoivent toujours moins de revenus. C'est ce qu'affirme le collectif, qui dénonce un modèle économique dont l'objectif central est la maximisation des bénéfices reversés aux actionnaires. Naila Jaltouni, coordinatrice de l'organisation Éthique sur l'étiquette.
Par exemple, Adidas a renégocié l'année dernière avec l'équipe d'Aman le montant du contrat de sponsoring pour la somme de 65 millions annuels pendant 3 ans. C'est 3 fois plus que le contrat précédent qui avait été négocié 2 ans auparavant, donc les augmentations sont absolument considérables. Nike, en 2016, signait le premier contrat à vie avec un joueur de football, Cristiano Ronaldo, pour un montant de 1 milliard de dollars au total, plus de 25 millions d'euros par an.
Sur le prix d'une paire de chaussures, en 20 ans, la part revenant à ceux qui les fabriquent a baissé de 30%. Résultat, les travailleurs des chaînes d'approvisionnement, situés principalement en Asie, perçoivent des rémunérations en deçà du salaire minimum vital.
Si jamais Nike et Adidas avaient décidé de ne pas augmenter les montants de sponsoring entre 2012 et 2017, c'est 1,7 milliard d'euros qui auraient pu être économisés et qui auraient permis de payer un salaire vital à 1 million de travailleurs en Chine, en Vietnam et au Cambodge.
Selon le collectif, seule une régulation transnationale contraignante permettrait de responsabiliser les acteurs de l'industrie du textile. C'est l'ambition du traité de l'ONU, multinational et droits humains, actuellement en cours de négociation.